Et voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. C'est le moment de retrouver Histoire d'archives par Jean-Christophe Labadie, directeur des archives départementales de Haute-Provence, accompagné de la directrice adjointe Marie Brunet-Marchetti. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on reste dans l'actualité, hein, donc parce qu'on est dans le cadre des cérémonies du 11 novembre, liées évidemment à l'armistice signé en 1918, et donc on va vous parler de la Première Guerre mondiale, du choix de la date du 11 novembre comme célébration nationale, et de la question aussi du culte lié, culte lié aux morts de la guerre. Voilà, donc c'est ça notre programme pour aujourd'hui. Voilà, donc commençons tout simplement par évoquer l'armistice, puisque le 11 novembre 1918, c'est la date de l'armistice, hein, qui a été signé très tôt le matin et qui annonce la fin de la guerre. Donc, pour des questions de simplicité, c'est le 11-11 à 11h, hein, donc le 11 novembre à 11h. Pourquoi ? Parce que... après les grandes offensives, la grande offensive allemande du printemps 1918, qui est très puissante parce que les Allemands ont rapatrié leurs troupes du front de l'Est, à la fin de la guerre du côté russe. Donc on essaie de forcer la décision par une guerre de mouvement. La contre-offensive alliée va bousculer les armées allemandes. Et en début d'octobre 1918, les Allemands commencent à discuter de la question d'un armistice, d'une possibilité d'arrêter la guerre. Ce qui est accepté par les alliés avec des conditions très particulières. Alors je profite de l'occasion pour rappeler qu'un armistice n'est pas la fin de la guerre. C'est simplement la suspension de la guerre. Ce sont les traités de paix qui vont effectivement, de manière définitive, mettre fin à la guerre. Donc c'est le traité de Versailles entre la France et l'Allemagne, mais il y a aussi d'autres traités qui marquent la fin. Ce qui explique le fait que les Français vont occuper l'Allemagne. Le fait aussi que les soldats vont rester mobilisés jusqu'en 1919. Parce qu'il faut éviter que les Allemands reprennent la guerre, parce qu'ils ont la possibilité de reprendre la guerre, l'armistice étant qu'une suspension. Voilà. Donc, ce qui explique donc que les poilus ne vont regagner leur domicile qu'à partir de la première libération, c'est en mars 1919. Donc, et ça va s'étaler tout au long de l'année, sauf pour ceux qui font leur service militaire, puisqu'il y a aussi ceux qui font leur service militaire qui duraient 3 ans à l'époque. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Alors, comme tout le monde le sait, l'armistice a été signé dans un wagon, avec Foch qui représente, c'est le généralissime, c'est lui qui commande toutes les troupes, et signé du côté allemand par un homme politique, qui va d'ailleurs être assassiné en 1921, parce que justement, il a signé l'armistice, puisque vous savez qu'il y a la thèse qui va être développée ensuite du coup de poignard dans le dos. C'est-à-dire, en fait, en gros, l'armée allemande, c'est pas l'armée allemande qui a perdu la guerre, c'est tout simplement parce que les civils allemands n'ont pas suivi, ont souhaité la fin, c'est le fameux coup de poignard dans le dos. Voilà. Donc il y a évidemment beaucoup de gens qui n'ont pas accepté, du côté allemand, qui n'ont pas accepté cette fin de guerre. Elle s'accompagne aussi de quelque chose qui est très important, c'est... le Kaiser, l'empereur allemand qui abdique, on part sur un nouveau régime, parce qu'il faut aussi se rappeler que la guerre de 1914-1918, c'est une guerre, en gros, contre des régimes autoritaires, les empires centraux, comme on disait, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, contre les démocraties, à part le cas russe, qui est un cas un peu particulier. On a aussi, avec le 11 novembre, une géographie qui va se redessiner. Et la création de certains pays, comme par exemple la Tchécoslovaquie, toute l'Europe centrale va être chamboulée suite à cette guerre. On sait aussi que le fameux wagon où a été signé l'armistice, évidemment qui marque l'humiliation des Allemands, va être détruit en 1945. Il avait été transporté en Allemagne et il va être détruit parce que c'est une marque d'infamie pour les Allemands. Alors, le 11 novembre, c'est quoi ? Le 11 novembre, la fin d'une guerre qui a évidemment mobilisé, en France, sur un pays qui compte 40 millions d'habitants, environ 8 millions de soldats. dont 1,4 million ont été tués. Beaucoup blessés. Alors, les chiffres sont très hésitants, parce qu'on n'a pas vraiment de statistiques. C'est entre 2,5 millions et la moitié des mobilisés. Voilà, c'est un peu compliqué. On n'a pas évidemment, on comptait pas forcément les gens blessés, sachant que on pouvait être blessé plusieurs fois. Moi, je dis toujours, dans la classe de 1914, donc les jeunes de 20 ans qui ont 20 ans en 1914, il y en a donc un tiers qui ont été tués, hein, donc un peu plus de 30%, et l'autre tiers blessé. Sachant que ceux qui ont été tués ont pu être blessés avant, hein, vous voyez, c'est un peu compliqué. Et dans ceux qui sont blessés, il y en a un qui avait été blessé 8 fois, 8 reprises. Vous voyez, donc il y a aussi des blessures multiples. Donc c'est compliqué de savoir comment il a été compté. Vous voyez. Donc les blessés, 500 000 vont mourir après la guerre de leurs blessures. Hein, donc oui, c'est pas les choses ne s'arrêtent pas comme ça. Des suites de leurs blessures après 1918, et on a 750 000 invalides. 125 000 mutilés, vous voyez, donc c'est le chiffre énorme, et 600 000 veuves et 750 000 orphelins. Donc là, c'est là qu'on voit en fait tout le poids de la guerre, une guerre qui a duré 4 ans, qui fait que en fait les Français perdent tous les jours pendant 4 ans en moyenne 900 soldats, donc à peu près un bataillon d'infanterie tous les jours. Hein, vous voyez, donc une attrition qui est considérable. C'est moins que les Allemands. Les Allemands, c'est 1300. Mais en proportion, c'est beaucoup plus, parce que la France est un pays beaucoup plus petit en termes de population que l'Allemagne. En réalité, le pays qui subit le plus la guerre, c'est la France. Donc la France sort vainqueur de cette guerre, mais avec des régions dévastées. Hein, quand les Allemands reculent en 1918, ils détruisent tout, absolument tout. Ils détruisent les usines, ils détruisent les ponts, les infrastructures. Vraiment, ils laissent un pays totalement, des régions totalement dévastées. Et donc, non seulement il y a la question matérielle, en fait, hein, et puis les industries, en fait, elles sont plutôt dans l'est et nord de la France, hein, donc c'est la France industrielle, en fait, qui est touchée, mais c'est aussi en termes de population, en termes de poids de la guerre, hein, ça représentera, en fait, à la fin de la guerre, 5% du budget national, hein, le poids, les invalides, les orphelins, etc., et ça ira en s'amplifiant tout au long de l'entre-deux-guerres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le 11 novembre développe un sentiment de pacifisme qui est très important parmi les anciens combattants, hein, parce que les anciens combattants vont avoir un poids politique fort important, hein, durant cette période. Donc il y a, vous voyez, tous ces éléments qui sont très importants pour comprendre aussi l'attitude de la France en 1939, hein, parce qu'elle a subi ce qu'elle appelait, enfin ce que les poilus disaient, la « der des der », hein, pensant que c'était la dernière des dernières, hein, dernière des guerres, alors qu'en réalité, évidemment, les conditions européennes, enfin mondiales, géopolitiques mondiales, sont tout à fait, c'est un terreau favorable en réalité à une autre guerre, sans compter même les conditions qui avaient été imposées par le traité de Versailles aux Allemands, hein, qui sont très lourdes, qui sont une humiliation supplémentaire, mais qui s'expliquent aussi par, justement, le sacrifice consenti par les Français. Quand les délégations allemandes venaient à Versailles pour la signature de ce traité de paix, en fait, ils passaient au milieu d'une haie formée de mutilés, vous voyez, pour rappeler, hein, pour qu'ils prennent conscience, hein, du fait que la France est marquée, hein, vraiment, par cette guerre. 3 millions de pensions, donc, hein, qui sont versées, sachant qu'un tiers, c'est pour les anciens combattants, et un quart, c'est pour simplement les pupilles, voilà, ce qu'on appelait les pupilles de la nation, donc, ont été adoptées, voilà. Alors, quand l'armistice, évidemment, est signé, c'est une délivrance, hein, il faut s'imaginer la joie de ce qu'on appelle l'arrière, hein, puisqu'il y a le front et l'arrière. Alors là, je parle que du front occidental, mais je pourrais aussi évoquer, comme on l'a fait remarquer hier, lorsque j'ai fait une conférence sur le 11 novembre, qu'il y a aussi le front d'Orient, et puis il y a aussi l'Italie, hein, puisqu'il y a aussi des Français qui combattent, le 3e régiment d'infanterie combat en Italie, hein, contre les Autrichiens. Voilà, donc il y a aussi d'autres fronts, enfin le front principal, c'est quand même le front occidental, hein, c'est là que se joue le plus. Voilà. Alors quand l'armistice est signé, eh bien on a... des télégrammes qui sont envoyés par, le préfet au maire. Je vous lis le texte exact du télégramme qui est envoyé par le préfet Zévor, qui est le préfet donc, des Basses-Alpes, au maire. « Veuillez prendre disposition pour que les cloches de toutes les villes, de tous les villages, de tous les hameaux sonnent à toute volée. Veuillez pavoiser et illuminer tous les édifices publics aux couleurs alliées. Mettez-vous d'accord dès maintenant avec autorité militaire pour que des salves d'artillerie soient tirées au maximum de suite. » Voilà, donc évidemment, c'est la liesse, hein, vraiment. On a d'ailleurs, le commissaire spécial qui fait un rapport pour, donc au préfet pour dire comment ça s'est passé. Voilà ce qu'il écrit. « Les cloches ont sonné à toute volée. Les établissements publics et les maisons particulières ont pavoisé et allumé dans la mesure de leurs moyens actuels. Les ouvriers des usines ont quitté le travail avec l'autorisation de leur employeur et avec journée payée. Hein, je prends exactement le texte. Une grande retraite au flambeau a parcouru toute la ville. La foule en liesse chantait la Marseillaise et acclamait les grands artisans de la victoire. Monsieur Clémenceau et le maréchal Foch, hein, le généralissime, ainsi que tous les poilus. Une manifestation toute spéciale a eu lieu devant l'hôtel de la sous-préfecture pendant que la musique municipale jouait l'hymne national. Monsieur le sous-préfet, du haut du balcon de son hôtel, a prononcé une vibrante allocution. La foule tout entière a répondu par les cris de « Vive la France, vive la République ». Le préfet lui-même va faire imprimer un placard, hein, donc une affiche en fait, à l'occasion du 11 novembre, donc vraiment imprimé le jour même, où en fait on retrouve trois thèmes qui sont développés. Le prix du sang, hein, donc la mort, la vengeance, les poilus morts sont vengés grâce à cette victoire, et la mobilisation de l'arrière, hein, puisque c'est aussi une guerre où l'arrière compte beaucoup, hein, où les femmes ont pris aussi une certaine place. Et je profite de l'occasion pour rappeler que le retour des poilus à partir de 1919 va être un petit peu compliqué dans certains foyers, parce que des femmes avaient pris pris en charge la vie au foyer. D'ailleurs, on leur avait confié une puissance paternelle, hein, de manière provisoire pendant la guerre, parce qu'il n'y avait plus les hommes, et donc il fallait s'occuper des enfants, etc. Donc les femmes ont pris donc une part aussi très importante dans la vie économique, hein, remplaçant les hommes partis au front. Et quand les hommes reviennent, les hommes vont reprendre leur place dans les foyers, dans les usines, dans les administrations, et les femmes vont être renvoyées pour certaines, pour beaucoup en fait, à leur statut précédent, hein, qui était celui qui est prévu par le code civil, qui est le fait que la femme reste mineure en fait, elle est sous la puissance paternelle quand elle n'est pas mariée, puis elle est sous la puissance paternelle de son mari. Donc il y a aussi, vous voyez, on a aussi des bouleversements dans les familles, sans compter alors les poilus qui rentrent, où il y a un enfant qui est apparu pendant leur absence, voilà. Donc on a aussi beaucoup de divorces. Alors Clémentine Vidal-Naquet, hein, qui est une spécialiste, hein, une historienne spécialiste de ces questions, disait aussi, mais c'est normal, il y a un rattrapage, hein, puisqu'il n'y a pas eu peu de divorces pendant la guerre, parce que c'est évidemment compliqué de divorcer quand votre mari est au front, d'autant plus que comme il n'est pas là, il ne pose pas tellement de problèmes. Voilà. Mais il y avait un phénomène de rattrapage, mais il y a aussi toutes ces questions liées au fait d'une certaine forme d'indépendance, hein, qui avait été acquise et qui pose problème quand les hommes reviennent. Puis en plus, il y a des hommes qui reviennent traumatisés aussi, hein, par la guerre, hein, qui ont des problèmes psychologiques très importants, qui ne sont pas pris en compte à l'époque. Hein, la question psychologique n'est pas du tout intégrée comme aujourd'hui, hein, dans les armées. Donc il y a toutes ces questions-là qui se posent, et par conséquent, les choses ne sont pas forcément très faciles au retour des poilus. Sans compter aussi donc les questions psychologiques, mais aussi l'habitude de consommer de l'alcool, hein, parce qu'en fait, alors à l'époque on buvait beaucoup de vin, mais qui était un vin assez léger, mais pendant la guerre, on développe une autre consommation qui est celle de la miaule. Hein, on a un très beau texte comme ça d'un chef de bataillon, je crois qu'il est encore capitaine à l'époque, tout au début de la guerre, qui explique à sa femme dans un courrier que justement il découvre en fait la miaule, quoi, hein, c'est-à-dire les alcools très forts que les poilus d'ailleurs buvaient juste avant de monter à l'assaut, hein, pour se donner un peu de morale et peut-être un peu oublier les conditions.
Oui, pour humaniser peut-être un petit peu les propos sur les poilus, je vous propose aussi de faire quelques apartés sur l'expérience d'un poilu spécifique. Alors, les auditeurs me pardonneront de ne pas parler d'un poilu basalpin. Celui-ci est maralpin. Voilà, il vient des Alpes-Maritimes, plus précisément de La Roquette-sur-Siagne. C'est un village qui est situé entre Mandelieu et Grasse. Et il se prénomme Hervé Lambert. Alors, je pense qu'il intéressera beaucoup nos auditeurs parce que c'est un paysan, c'est un fils de propriétaire agricole. Et donc, on a une vision très spécifique. Justement ce point de vue de l'agriculteur qui traverse, enfin, qui découvre la France, qui découvre des paysages, qui découvre aussi d'autres pratiques agricoles. Et on a aussi, bon, bien sûr, le point de vue du combattant, du jeune soldat qui est envoyé au front, mais aussi un regard d'agriculteur sur le pays. Alors Hervé Lambert, quand il part au front, il a 19 ans, presque 20, il va faire toute la guerre, il sera démobilisé en août 1919, il va être remobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, il sera aussi, il va être exempté et il finira ses jours donc dans les Alpes-Maritimes. Voilà pour cette courte présentation. Et pour revenir sur ce que disait Monsieur Labadie concernant l'armistice, alors malheureusement, nous n'avons pas les lettres d'Hervé Lambert concernant l'armistice parce qu'il était en permission. Donc nous n'avons pas son récit. Par contre, on a le récit de ce qu'il fait après l'armistice. Où avec ses compagnons de guerre, il danse beaucoup, vraiment ils vont au bal, ils vont au restaurant, enfin autant qu'on le peut avec les cartes de rationnement, mais il danse énormément et voilà, ils ont quand même cette joie de vivre après avoir connu l'enfer des combats, sachant que bon, Hervé Lambert est allé 4 fois à Verdun. Et il a survécu. Les 2 blessures qu'il a eues, c'était une blessure au pied, une balle qui lui a traversé le pied et une entorse. Donc il a quand même une chance incroyable d'avoir vécu 4 fois des combats très intenses à Verdun et de s'en être sorti quasiment indemne. Et pour reprendre aussi ce que disait Monsieur Labadie sur la place des femmes, Hervé Lambert a une demi-sœur. Une demi-sœur qui s'appelle Lucienne, qui est plus jeune que lui, qui a 12 ans quand il part au combat. Et en fait, son père étant très âgé, c'est elle qui va reprendre vraiment l'exploitation agricole et qui va faire tourner la boutique pendant que son frère n'est pas là. Et Hervé écrit très régulièement justement des bons conseils. Voilà, là c'est le moment de tailler les vignes. Il y a tel ou tel travaux à faire dans la propriété. Il est très attentif à ça. Et de l'autre côté, c'est aussi cette pauvre Lucienne qui est adolescente qui doit faire tourner une propriété qui fait quand même plusieurs dizaines d'hectares.
Voilà. Un mot quand même sur le dernier mort de la guerre, sur le front occidental. Il s'appelle donc Augustin Trébuchon. C'est un Lozérien qui était né en 1878, donc n'était pas un jeune homme, qui était l'aîné d'une famille dont il était d'ailleurs le soutien matériel, qui avait été donc mobilisé dès août 1914 et qui a fait donc toute la guerre dans un régiment d'infanterie. Alors il est mort. Il était à l'époque première classe au sein de la 9e compagnie du 415e régiment d'infanterie, de la 163e division d'infanterie. Il est mort peu avant 11 heures. Alors on n'a pas l'heure exacte. On a déclaré sa mort d'ailleurs le 10 novembre, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait des morts le 11. Il était berger, c'est un simple berger. Son régiment, d'ailleurs, qui pousse, parce que l'objectif pour les Français, c'est de pousser au maximum leur avantage, puisque, comme je le disais, l'armistice n'est qu'une suspension de la guerre. Donc il faut aller le plus loin possible contre les Allemands, et donc, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir d'une armée qui se retient parce qu'elle attend l'armistice, c'est l'inverse qui se passe, en fait. On pousse le plus possible et donc on attaque. Donc ceux qui sont en train de se replier. Les Allemands sont en plein repli. Voilà. D'ailleurs, son régiment, entre le 9 et le 11 novembre, compte 68 tués. Donc oui, ce n'est pas rien. 97 blessés. Trébuchon, alors c'est tout à fait symbolique, mais il est... presque normal que ce soit un Lozérien qui soit tué, car la Lozère, c'est le département qui, en France, a le plus subi la guerre. C'est près de 11% des hommes qui sont morts à la guerre. C'est le record national. Le département des Alpes de Haute-Provence, donc des Basses-Alpes à l'époque, lui est à autour de 8,2%, ce qui est aussi un taux très, très fort quand on le compare, par exemple, aux Bouches-du-Rhône, au département donc méditerranéen, où on est plutôt autour de 4 et 4,5%, ce qui s'explique notamment par le fait qu'on est dans des zones très rurales, et donc la Lozère, les départements du Massif central, la Vendée, la Bretagne, un département pyrénéen, les départements alpins sont ceux qui ont donné le plus à la guerre. Voilà. La guerre donc terminée, c'est l'occupation. C'est l'occupation allemande. Alors il y a deux phénomènes. D'abord, il y a la découverte d'un pays totalement inconnu de ces soldats qui sont sortis de leur campagne et qui découvrent en fait qui sont les Allemands, car la guerre ne s'est jamais déroulée sur le sol allemand. Quand les Allemands signent l'armistice, ils sont encore en France, hein, ils ne sont pas en Allemagne. Donc on a des attitudes de vainqueurs, en fait, hein, pour les soldats qui découvrent un pays dévasté où des gens ont des difficultés d'approvisionnement, hein, puisqu'il y avait un blocus très, très important. Donc la question alimentaire est une question très, très importante, très fondamentale, en fait. Hein, les civils allemands ont beaucoup souffert de la guerre, en fait. Hein, voilà. Et donc on a des courriers, hein, de poilus qui racontent à leur famille, leur occupation. Et entre autres, on a des lettres de Danican Grégoire, hein, qui est un soldat, qui a perdu un frère à la guerre déjà, mais donc une famille qui est en deuil, qui est à Aix-à-la-Chapelle en décembre 1918, et qui écrit à sa sœur « Je m'empresse de te faire part de mes impressions concernant les mangeurs de choucroute. Oh, mais ils n'en ont pas en abondance de la choucroute et de toute haute nourriture. Le peuple allemand est dans une misère noire, leur pain est si noir, nos chiens n'en voudraient pas, pas de viande, pas de beurre, pas de légumes. Aujourd'hui, ils ne sont plus arrogants comme par le passé, ils sont bien souples et soumis au contraire. Le soldat allemand qui se promène en ville n'a pas à se déranger, car c'est le Boche qui se dérange pour le laisser passer sur le trottoir. C'est du reste une chose bien juste, n'est-ce pas, que nos ennemis reconnaissent la vaillance de nos poilus. » Il continue donc, cette haine du Boche, évidemment, va aller en s'amplifiant. Hein, « Je fais toujours des réquisitions chez les Boches, soit du lait et des œufs que je prends tous les jours en assez grande quantité pour les malades. Hein, » Il s'occupe aussi d'un hôpital. « C'est le Kaiser qui paye tout. Pauvre bonhomme, il n'est plus si arrogant comme jadis, aussi bien que son peuple que lui, malgré qu'il ait encore pas mal de partisans fridolins, donc il y a encore des gens qui sont nostalgiques de cette période, c'est certains, comme je te dis, ne peuvent pas en démordre, cette pire canaille étant pour eux leur dieu. » Donc même si c'est le cas, je crois qu'il s'est réfugié en Hollande, hein, de mémoire, aux Pays-Bas. Voilà. Donc parallèlement aussi, la fin de la guerre, c'est aussi la libération des prisonniers. Hein, puisqu'il y a aussi des prisonniers français en Allemagne, 500 000 quand même. Hein, donc il y a aussi le retour des prisonniers pour les familles. Donc c'est évidemment un soulagement. On a d'ailleurs aux archives départementales un don très particulier de pain, hein, du pain très noir, qui était donc du pain qui était donné aux prisonniers et que un des prisonniers français avait ramené en mémoire de cette période très difficile, où les prisonniers, finalement, participaient à la vie économique. Hein. Souvent, ils étaient affectés à des fermes. C'était des paysans, hein, pour la plupart. Et donc, ils étaient affectés à des fermes. Le retour des hommes, en fait, va relancer le marché matrimonial, mais qui est quand même très réduit, parce qu'il manque beaucoup d'hommes. On a une institutrice, hein, qui correspond d'ailleurs avec la famille Grégoire, qui raconte que c'est la chasse au mari. Puisqu'en fait, il n'y a plus beaucoup d'hommes. il y a les femmes. Et alors, cette institutrice, elle est intéressante parce qu'elle se moque un peu de ses collègues institutrices qui, comme elle, ont autour de 20 ans, vous voyez, et qui sont donc en âge de se marier, et qui, elle, au contraire, dit qu'elle est très contente et qu'elle va rester célibataire, qu'elle ne veut surtout pas avoir, comment dire, un homme à la maison, et que, voilà, continuer à bénéficier donc de cette vie qui lui permet une certaine liberté. Le retour des hommes, donc, comme je le disais, hein, a posé quelquefois quelques problèmes hein, dans les familles. Mais il y a aussi, alors, évidemment, du côté des hommes, il y a un retour qui est désiré. Hein, on a des correspondances comme ça où des hommes disent vivement la fin de la guerre, hein, vivement le retour, parce que même si à la fin de la guerre, on est après dans les casernes, on occupe l'Allemagne, c'est une vie quand même militaire qui est très routinière, qui est très, très difficile à supporter d'ailleurs hein, par les poilus qui ont fait la guerre et qui n'ont qu'une envie, c'est quitter l'habit militaire. Voilà. Voilà, donc il a aussi, donc, juste un petit mot, et après je laisse la parole à ma collègue, un poilu basalpin donc, va adresser une carte postale à son épouse. C'est au moment donc, des vœux de 1919, donc on est tout à fait en janvier 1919, et cette carte postale porte au recto, donc accrochée donc, au dessin d'un bouquet de fleurs, hein, une banalité évidemment, c'est quatre vers, que je vais vous lire. Le temps travaille, pour notre amour, mon cœur tressaille, au beau retour.
Pour revenir un petit peu sur ce qu'a présenté M. Labadie sur le ravitaillement, la nourriture, les conditions de vie vraiment matérielles, à la fois au front et à l'arrière. Donc l'expérience qui transparaît à travers la correspondance donc, d'Hervé Lambert, notre poilu provençal, c'est tout d'abord, alors qu'il est au front, il découvre, ou en fait, il a un régime qui est beaucoup plus carné que ce qu'il a l'habitude de consommer alors qu'il est chez lui. C'est-à-dire qu'il mange beaucoup plus de viande que son quotidien à la Roquette-sur-Siagne. Ça, déjà, c'est déjà une révolution alimentaire pour lui. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement gourmand. On a des récits, mais vraiment par le menu, sans mauvais jeu de mots, de tout ce qu'il mange à la fois au quotidien et puis pour les fêtes, pour les repas de Noël ou du Nouvel An. On a vraiment le détail dans sa correspondance de tous les plats, de tout ce qu'il a l'occasion de manger. Il parle aussi effectivement de l'alcool. Il en boit beaucoup plus alors qu'il est au front que ce qu'il pourrait boire chez lui. Et effectivement, il découvre aussi l'agneau, les alcools forts, dont certains en fait sont utilisés pour désinfecter l'eau. Lui demande régulièrement de l'alcool de menthe pour mettre dans sa gourde, de manière à éviter les maladies, les infections. Ça aussi, c'est assez particulier. Il parle aussi dans sa correspondance des problèmes de ravitaillement à la fin de la guerre, parlant des cartes de rationnement ou bien quand il va au restaurant justement on lui demande d'apporter sa carte de pain, ce qu'il trouve absolument scandaleux. Donc il a quand même une attention qui est vraiment constante sur la nourriture. Pour reprendre aussi ce qui a été dit sur le travail des hommes après l'armistice, alors qu'il n'est pas encore démobilisé, mais lui va continuer les exercices aussi, il va continuer les entraînements, il va d'ailleurs changer de régiment, il passe dans les tanks, voilà, donc il passe son permis de conduire, il apprend à conduire un tank, à utiliser les armes qui équipent ce genre de machine, et en fait l'armée française n'est pas, enfin en tout cas ce qui est présenté par la correspondance d'Hervé Lambert, elle n'est pas en voie de démobilisation. On s'attend toujours à ce que éventuellement les hostilités reprennent. Donc c'est aussi pour ça que sa démobilisation aura lieu assez tard, en août 1919.
C'est pause musicale, donc.
Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles plus belle. Elle sait bien dire papa, maman. Quant à son frère, il peut prédire pour demain la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête. Grâce au petit clown qui nous fait rire. Même Alexa, cette pauvre bête, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami.
Voilà, on reprend donc après cette chanson de Christophe.
Les marionnettes. Voilà.
Les marionnettes. Hop, j'ai pas monté le bon micro.
Voilà, les marionnettes, donc, qui était donc un disque de Christophe, qui remonte donc aux années 60, hein, alors je ne sais plus si 64, 65 ou 66, enfin, à peu près dans ces années-là, quoi. Voilà, reprend donc avec donc, le 11 novembre. Le 11 novembre, donc, c'est aussi la victoire des morts. Hein, donc, comme je le disais tout au début de mon intervention, la France est très marquée par la guerre. On est autour d'1,4 million de morts. Et pour les combattants, en fait, et c'est d'ailleurs un des problèmes, c'est que cette liesse, évidemment tout à fait légitime, hein, de l'arrière qui célèbre ce 11 novembre, est très mal perçue par une grande partie des combattants, parce que pour eux, le 11 novembre donc marque en fait la victoire des morts. Hein. Se rappelle, évidemment, hein, tout au long de la guerre, de la disparition, de la mort tragique, dans des circonstances très difficiles, hein, de leurs camarades, hein, tout simplement. Et on a un discours qui est prononcé le 17 novembre 1918 donc par le président Poincaré, à propos, donc, en faveur de l'Alsace-Lorraine, que je vais vous lire. « Honneur aux mères qui n'embrasseront plus leurs fils, aux femmes qui cherchent sur les champs de bataille la tombe de leur mari, aux orphelins qui deviennent les enfants adoptifs de la France, mais par-dessus tout, messieurs, honneur à ceux qui ne sont plus, à ceux qui sont tombés, l'espoir au cœur, dans les sillons ensanglantés, dans les tranchées bouleversées, dans la profondeur des mers, et dont les yeux clos n'auront pas vu poindre l'aurore de la victoire et la lumière de la paix. Honneur aux plus modestes, aux plus obscurs, aux plus inconnus d'entre eux. Il n'est pas un seul dont la mort n'ait aidé à la résurrection de la France et à l'affranchissement de l'humanité. Leurs corps déchirés par les projectiles gisent dans les régions dévastées où s'est décidé le sort du monde. Mais leur image sacrée demeurera intacte au fond de nos cœurs. C'est elle qui sera désormais notre inspiratrice. C'est elle qui nous rappellera demain, dans notre labeur pacifique, quelle moisson de gloire et bientôt de force et de prospérité nationale a pu faire lever en quelques années sous le soleil de France l'esprit de sacrifice et d'abnégation. Donc on voit bien, hein, que dans ce discours, qui est un discours normalement, enfin, évidemment très positif, hein, qui célèbre donc la victoire, et le retour de ce qui est dit, l'Alsace et la Lorraine, en réalité l'Alsace et la Moselle, hein, dans les faits, on voit bien qu'il y a d'un côté, bah, évidemment, les vivants, hein, les parents, etc., puis, mais aussi de l'autre côté, les morts, Hein, d'un côté les mères, les épouses, les enfants, et par-dessus tout, ceux qui ne sont plus. Ceux qui ne sont plus les plus obscurs, hein, les plus ordinaires, c'est-à-dire en fait les paysans, ces gens qui ont donné leur vie, dont les corps ont été hachés par les mitrailleuses, hachés aussi par les projectiles, hein, les obus, puisqu'on considère que plus de 70% des morts sont dus à l'artillerie, hein, ce qui explique aussi le pourcentage très important de disparus, hein, de corps qu'on n'a pas retrouvés. Voilà. Donc on a tous ces éléments qui sont très importants pour comprendre la suite qu'on va évoquer tout à l'heure. Voilà. Et on a un courrier de Marie-Hélène Truchot, qui est donc dans le département, qui sera ensuite sous-archiviste aux archives départementales des Bas-Alpes, qui écrit dans son journal ces mots. « Honorons longtemps encore les morts de cette grande guerre qui ont acheté notre victoire de leur sang. » Vous voyez, on est vraiment dans cette philosophie de la mort. Le 14 juillet 1919, on a le grand défilé de la victoire, hein, où on a la troupe qui défile derrière 1000 mutilés. Donc en tête, on a des mutilés, hein, on revient dans cette idée. On a donc les soldats des armées de terre, de mer, qui défilent devant le président de la Chambre des députés, qui est Deschanel à l'époque. On a évidemment les maréchaux, en fait, hein, Joffre, Clémenceau et Foch, hein, qui sont évidemment mis en valeur, place de la Concorde à Paris. Je le disais donc, Poincaré, dans son discours, évoque la mort. En fait, pour mettre les choses un peu en perspective, en gros, un habitant sur 27 en France a disparu pendant la guerre. Vous voyez, un habitant sur 27. C'est 1 sur 30 en Allemagne, compte tenu, hein, de la démographie, et 1 sur 57 en Angleterre. Vous voyez, donc la France est très marquée. Dans nos régions, on est à peu près dans le pourcentage moyen des pertes, qui est au total autour de un peu plus de 16%. Hein, donc voilà. Et comme je le disais, donc la France perd 900 hommes tous les jours en moyenne pendant la guerre, mais avec des moments où les chiffres sont beaucoup plus importants, en particulier au début de la guerre, hein, dans la période qui court en fait entre août et novembre 1914. Eh bien, la France perd tous les jours 2700 hommes. Donc vous voyez, l'hécatombe, hein, donc 2700 hommes, c'est un régiment, quoi, en fait. Hein. Tous les jours, il y a un régiment qui disparaît. Voilà, donc on a un peu moins d'un régiment. Donc on a vraiment quelque chose qui est très très important. Et les Britanniques, hein, leur jour de deuil, c'est le 1er juillet, lors de la bataille d'Assomme, donc 1er juillet 1916, où ils perdent en un seul jour 20 000 hommes tués, 40 000 blessés. Voilà, donc c'est vraiment... ça paraît tout à fait considérable. J'ai expliqué donc effectivement quelles étaient les régions qui étaient particulièrement touchées par la guerre. Je ne vais pas revenir là-dessus. On a aussi, après la guerre, donc des associations, hein, qui sont créées, dont celle qui s'appelle l'Union des Pères et des Mères, dont les fils sont morts pour la patrie, et qui rappelle, hein, donc toujours cette idée que, je cite, « Permettez-vous que l'on sabote notre victoire ? Non, écoutez la voix des morts. » Voilà. On est, voilà. Et donc c'est au nom des morts que tout le monde parle, en fait. Écoutez la voix des morts, les morts qui sont tombés pour que la patrie vive, adresse à tous les Français un appel qui doit resserrer l'unanimité des volontés et des cœurs. Vous voyez, les morts qui sont tombés, c'est ceux qui parlent, en fait. Et donc, il y a des gens qui parlent pour les morts. Cette expérience de la mort, évidemment, est vécue dès le départ de la guerre, hein, comme je disais avec les chiffres d'août 1914. En gros, on considère que presque la moitié des morts, c'est dans la première année de la guerre. Vous voyez, la moitié des morts de la guerre. Donc les trois autres années sont beaucoup moins, moins importantes, puisque c'est la guerre d'opposition. Et les pertes reprennent, en fait, en 1918, quand on repart dans une guerre de mouvement. En gros, l'année la plus importante, c'est 1915, en termes de pertes. 1915, parce que c'est une année complète. Ensuite, c'est 1914. Ensuite, c'est 1918, 1916, 1917. Donc, en fait, la période où il y a les mutineries, 1917, c'est l'année où il y a le moins de morts. Mais il y a l'expérience du chemin des dames, qui est une catastrophe, hein, une offensive qui va être une catastrophe, et donc qui déclenche aussi donc, tous ces mouvements de contestation. Voilà. On a beaucoup de courriers, hein, ou de journaux de poilus qui racontent justement cette expérience de la mort. Paul Roux, qui est un Dinois, hein, de la classe 1915, qui a été incorporé au 163e régiment d'infanterie, alors, qui est lui basé à Nice, qui a été donc ensuite fait prisonnier à Verdun en mars 1916, donc finalement un mois après le début, le déclenchement de la bataille de Verdun, écrit le 19 avril 1915, « Tout autour de nous, lorsqu'on est debout, on aperçoit de simples croix de bois qui marquent la place de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur, qui est aussi un champ de solitude, où plane parfois la pensée triste et émue de soldats survivants, frères inconnus du pauvre malheureux. » Vous voyez, donc on a évidemment toute cette expérience. En septembre 1915, donc quelques mois après, il parle des cimetières. Et voilà ce qu'il écrit. « Ils s'agrandissent, hélas. Chaque jour, les petits cimetières du front reposent ceux qui sont morts pour la patrie. On en voit un peu partout de ces tombes. Ils sont simples, ces pauvres cimetières. On y voit que de modestes croix de bois sur des tertres de terre rouge. La plupart de ces croix sont blanches, quelques-unes sont peintes. Elles portent le nom du soldat. J'ai assisté à des inhumations. Là-bas, on apporte le mort sur un brancard. On le dépose tout habillé dans la fosse à côté de ses camarades. On songe aux pauvres malheureux. C'est triste, c'est simple. Pas un prêtre pour lui dire une prière. Les visages sont recueillis près de la fosse où repose le frère d'armes inconnu qui vient de verser son sang pour la patrie. La pensée émue et reconnaissance quitte le pauvre soldat, héros obscur, oublié. Pas près de Dieu dans l'éternité. Voilà, on a tout ça. On a donc, durant la guerre, créé une mention « mort pour la France ». Hein, donc c'est la loi du 2 juillet 1915 qui s'applique selon trois conditions à tous les militaires tués à l'ennemi ou morts de blessures reçues ou de maladies contractées sur le champ de bataille. Et donc qui ont droit donc, au titre de mort pour la France, qui va ensuite être élargi aux civils qui sont tués dans les mêmes conditions. Puisqu'il y a aussi quelques civils, hein, même si ce n'est pas évidemment le niveau de la Deuxième Guerre mondiale, il y a quelques civils qui en sont les victimes. Pourquoi a-t-on choisi le 11 novembre comme fête nationale ? Puisqu'il y avait le 14 juillet, hein, qui célèbre la fête de la Fédération de 1790, qui elle-même a été célébrée en lien avec la date du 14 juillet 1789, donc la prise de la Bastille, hein, mais c'est la fête de la Fédération, hein, donc, où les départements sont tous réunis. Le 14 juillet 1790, qui est donc l'événement fondateur. Pourquoi ? Comment on a choisi la date et comment va-t-on honorer les morts ? Alors on va le faire de plusieurs façons, avec les monuments morts, mais aussi avec le soldat inconnu. L'idée, en fait, d'honorer un soldat inconnu remonte déjà au 20 novembre 1916, donc vous voyez, avant même la fin de la guerre, durant la bataille de Verdun, hein, qui est une bataille emblématique. C'est pas la bataille où il y a le plus de morts, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais c'est une bataille où tous les régiments, c'est quand même une bataille qui est importante d'un point de vue tactique et stratégique, c'est-à-dire qu'en fait, si les Allemands percent, les choses vont être très compliquées pour les Français, pour les Alliés. Mais c'est surtout une bataille qui est restée dans la mémoire collective, parce que c'est là qu'on a marqué un arrêt des Allemands, mais aussi parce que tous les régiments français, quasiment, ont tourné à Verdun. Et donc, ils ont tous une expérience, enfin, beaucoup ont l'expérience de cette bataille. Donc ça, c'est durant cette bataille que cette idée apparaît. Alors, vous savez que le soldat inconnu a été inhumé le 28 janvier 1921 sous l'Arc du Triomphe, hein, donc, et que la flamme a été ravivée pour la première fois, et qui est ravivée tous les jours, en fait, depuis le 11 novembre 1923. On a une loi qui a été votée donc, le 9 novembre 1920, dont je vais vous citer les deux articles. Article 1. Les honneurs du Panthéon seront rendus au reste d'un des soldats non identifiés morts au champ d'honneur au cours de la guerre 1914-1918. La translation des restes de ce soldat sera faite solennellement le 11 novembre 1920. Et l'article 2, le même jour, les restes du soldat inconnu seront inhumés sous l'Arc de Triomphe. Donc c'est vraiment ce qui est prévu. Alors qui va choisir le soldat inconnu ? Donc parmi 8 cercueils, c'est le soldat Auguste Thin. Hein, qui désigne à Verdun, hein, donc on revient toujours à cette bataille, le soldat inconnu, le 10 novembre 1920. Le cercueil ensuite est transféré à Paris, hein, de Verdun, et rejoint pour la cérémonie du 11 novembre quelque chose qu'on a oublié, la chasse qui contient le cœur de Gambetta. On va faire deux choses en même temps, en fait, hein, et qui doit être transféré dans la crypte du Panthéon. On a donc une foule qui va accompagner. On a les images, hein, c'est extraordinaire. Hein, on a une foule énorme qui accompagne donc, le cortège au Panthéon, puis à l'Arc de Triomphe. Et le cercueil, donc, alors, Parlons du cœur de Gambetta. Eh bien, il est transféré donc le 11 novembre 1920 avec un char. Donc il y a deux chars. Il y a le char qui transporte le cœur de Gambetta dans sa chasse et le char qui transporte le soldat inconnu. Alors j'en parle parce que c'est important, parce que c'est un rapport avec le département. Car qui est présent pour cette translation du cœur de Gambetta au Panthéon? Vous avez un sénateur, qui est un ancien ministre de la guerre, le ministre de la guerre en exercice, vous avez le ministre des Travaux publics, vous avez un général de division qui est en fait un des neveux de Gambetta, et vous avez surtout André Honora, donc notre homme politique de Lubaye, qui est à l'époque ministre de l'Instruction publique. Et on a une très belle photographie qui montre tous ces personnages qui sont au Panthéon. Le 28 janvier 1921, donc, le soldat inconnu est inhumé sous la voûte de l'Arc de Triomphe, avec une dalle de granit qui rappelle donc que ici repose un soldat français mort pour la patrie 1914-1918. Comment maintenant a-t-on choisi la date du 11 novembre ? Parce qu'il fallait donc évidemment rendre hommage à ces morts et donc trouver une date. Alors, évidemment, pour nous, ça paraît évident, hein, le 11 novembre. En fait, on avait hésité au départ avec le 1er et le 2 novembre, qui sont donc la Toussaint et la fête des morts. La Toussaint, c'est normalement à l'origine une fête où on célèbre les saints et les martyrs, donc quelques morts en fait, alors que le 2 novembre, c'est la fête des morts ordinaires, hein, dans les familles, etc. Alors après, bon, les choses ont un peu changé, et aujourd'hui, la Toussaint est devenue aussi la fête de tous les morts, en fait. Hein, voilà. Mais à l'origine, ce n'est pas le cas. Donc on pense, logiquement, on est en novembre, on se dit, bah, on a déjà deux dates qui correspondent, en fait, à la question des morts. Voilà. Sauf que ça ne va pas satisfaire les anciens combattants qui vont imposer le 11 novembre. Sauf que, alors vous allez voir, c'est assez subtil. La loi du 24 novembre 1922 va entériner le fait que le 11 novembre va devenir une date officielle. Voilà. Article 1. La République française célèbre annuellement la commémoration de la victoire et de la paix, donc le 11 novembre. Et article 2. Cette fête sera célébrée le 11 novembre, jour de l'anniversaire de l'armistice. Le 11 novembre sera jour férié. Ce qui est beaucoup mieux que ce qui était prévu par la loi, car cette loi va annuler une loi de l'année 1921 qui déclarait que la République française célébrerait annuellement l'anniversaire du 11 novembre. Mais attention, le 11 novembre, si c'est un dimanche, et si c'est pas un dimanche, le dimanche suivant. Autrement dit, pas de jour férié. Voyez, donc, et donc, pas forcément le 11 novembre. Voilà. Hein, voilà. Cette célébration va s'accompagner d'un grand mouvement, hein, donc celui de la construction des monuments aux morts. J'insiste hein, pour dire que là, c'est une victoire des morts, et donc on va célébrer ces morts à travers les monuments. Alors, vous savez que la France va se couvrir de monuments aux morts, hein, que ça va d'ailleurs développer un marché économique absolument considérable, aussi bien pour les fabricants que les fondeurs, pour les sculpteurs, les statuaires, comme on disait, etc. Ben voilà, un grand business, en fait, hein, qui va surtout se développer dans 1920, au début des années 20, surtout. Hein, c'est le grand mouvement, et dans le département, c'est entre 1920 et 1923, même si on a eu après, hein, évidemment. Voilà. Donc on va ériger des monuments aux morts pour la patrie ou aux morts pour la France, hein, selon les cas. On a les deux. On a aussi l'ambition de créer un livre d'or. Alors le livre d'or, quelle est l'ambition? C'est de recueillir tous les noms des combattants qui sont morts pour la France, par commune, et ensuite par département, de centraliser tout ça et de déposer le livre d'or de tous les morts au Panthéon. Donc c'est un projet qui ne va pas aboutir, hein, en fait, il n'y aura jamais de livre d'or au Panthéon, mais il n'empêche que ce livre d'or, quand même, a été élaboré, il n'est pas terminé, hein, pour certains départements. Pour les Bas-Alpes, il a été complètement fait. Hein, on a, si vous êtes curieux, sur le site des Archives nationales, vous trouvez, en fait, les livres d'or des départements, et en particulier, donc, celui des Bas-Alpes, donc des Alpes-de-Haute-Provence aujourd'hui, avec, par commune, la liste des morts. Voilà. Donc on a ce projet-là, parallèlement au monument aux morts. Ça va durer jusqu'aux années 30, hein, jusqu'en 1930. On va être dans cette élaboration avec une discussion avec les communes. C'est-à-dire que quand Paris a défini avec ces fiches de ministère qui sont les morts, etc., eh bien, on les envoie aux communes qui, elles-mêmes, peuvent discuter sur certains noms qui manquent ou qu'il y a, etc. Voilà. Donc on a ce mouvement. On a donc aussi une loi qui, en 1920, va permettre de donner des subventions pour la construction de ces monuments morts, mais en fait, subventions qui seront dérisoires et qui seront délivrées en fonction de trois critères. Le premier critère, c'est la richesse de la commune. C'est le fameux centime additionnel. Le deuxième critère, c'est l'investissement consenti par la commune, donc en fait la subvention donnée au comité d'érection du monument. Et le troisième critère, c'est la proportion de morts par rapport à la population totale en se basant sur le recensement de 1911. Donc voilà, donc plus vous avez de morts par rapport à la population, plus le taux est élevé, plus la subvention est importante. Vous voyez, c'est un peu paradoxal. Voilà, donc on a... alors, aussi, autre raison pour lesquelles on a construit ces monuments aux morts, bah, c'est évidemment cette mortalité absolument incroyable, mais c'est aussi le fait des disparus. Je crois qu'on est autour de 14% de soldats qui ont disparu. Pour les familles, les disparus, c'est l'absence de corps, en fait. Hein. C'est donc l'absence d'une tombe. Et le monument mort, qui est un cénotaphe, hein, c'est-à-dire en fait un monument mort sans cercueil, évidemment, eh bien, c'est aussi une façon pour les familles de pouvoir se recueillir avec en plus le nom de leur fils, père, mari, inscrit sur le monument. Donc c'est aussi pour cette raison-là. C'est aussi, ça marque aussi donc une forme d'individualisation de la mort et du soldat. Avant, dans les guerres précédentes, hein, les monuments morts n'ont pas été inventés par la guerre de 14-18, il y en avait avant. Il y en a eu en particulier lors de la guerre, suite à la guerre de 1870-71. Mais c'était des monuments qui étaient cantonaux et qui ne portaient pas le nom des morts, en fait. Jusqu'à la guerre de 14-18, les morts, en fait, les simples soldats, hein, donc... deuxième classe, première classe, caporaux-chef, et même sous-officiers, étaient ensevelis dans des fosses communes. Et d'ailleurs, en 1914, on posait la question devant l'importance de la mortalité, de qu'est-ce qu'on allait faire de tous ces corps. Il y avait l'idée des fosses communes, il y avait l'idée de l'incinération, enfin voilà. Ce qu'on refusait les poilus. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont souhaité que, justement, j'expliquais dans le courrier hein, qui avait été envoyé par ce Dinois, c'est qu'en fait, on met le nom sur la croix de celui qui est mort, en fait, il est individualisé. Et après, comme ça, ça permet aussi de le récupérer et de créer ces fameuses grandes nécropoles nationales hein, qu'on a, et qui vont, pour l'essentiel, recueillir la plupart des morts de la guerre. En fait, il y a effectivement la possibilité après la guerre, hein, pas pendant la guerre, de récupérer les corps et de les transférer dans les caveaux familiaux. Mais en fait, la plupart des soldats vont rester dans ces fameuses nécropoles, les familles préférant... sans doute pour beaucoup de raisons, et entre autres, bah parce que c'est la camaraderie dans la mort, hein, donc de les laisser dans ces nécropoles. Voilà, donc on a ce grand mouvement des monuments morts, où on aura donc le nom des soldats, parce qu'il est très rare. Dans le département, par exemple, à Sisteron, vous n'avez pas le nom, effectivement, des soldats qui sont inscrits sur le monument, mais pour une raison très simple, c'est qu'en fait, ils sont inscrits pas très loin, dans l'église, hein, donc dans l'ancienne cathédrale, vous avez la liste des morts. Cette liste des morts, c'est celle qui sera lue quand on inaugurera le monument mort. Donc vous voyez, il y a une relation très, très, très de proximité entre le monument civique à l'extérieur et la plaque paroissiale à l'intérieur, hein, qui liste une liste très longue, hein, évidemment, de mort. Voilà. Donc il y a toutes ces manifestations. Et qui vont être les acteurs de ces manifestations? Ben, ce sont les anciens combattants. En fait, le monument aux morts, hein, qui va être érigé dans la commune, soit dans la commune centre, soit aussi on trouve des monuments dans les hameaux. Hein, vous avez le cas dans le département, hein, c'est assez fréquent. Donc on aura beaucoup de monuments qui vont être faits et qui vont donner lieu à des cérémonies chaque 11 novembre où on lit le nom des morts, voyez, pour rappeler leur mémoire. Et c'est à ce moment-là, normalement, ce sont les enfants hein, qui sont présents, parce que il y a aussi de la pédagogie liée au fait de l'existence d'un monument. Ben, les enfants répondent « mort pour la France » à chaque fois. Voilà, c'est le principe. On lit le nom et à chaque fois on dit « mort pour la France ». Voilà, donc Ce qui explique aussi d'ailleurs que des monuments vont être érigés dans des cours d'école. Hein, pour, quelles sont les mentalités d'époque, hein, dans quel contexte on est, qui est très particulier. Et donc les acteurs, donc je disais, ce sont les anciens combattants. Les anciens combattants, en fait, vont représenter les morts. En fait, c'est leurs camarades. Et en fait, à chaque cérémonie, à la fin de la cérémonie, eh bien, les autorités vont remercier les anciens combattants qui sont aujourd'hui remplacés soit par les anciens combattants, mais surtout par les porte-drapeaux, hein, qui rappellent justement la mémoire de ces morts. Voilà. Donc, vous voyez, on a comme ça ces mouvements qui sont très importants. Hein, non seulement ils sont morts pour la France, mais ce sont aussi des héros. Et vous savez que les héros ne meurent jamais. Voilà. Donc c'est une façon de rappeler aussi... comme dit Annette Becker, hein, donc, qui a écrit sur les monuments morts, en fait, ces cérémonies, quand les enfants répondent « mort pour la France », en fait, elle parle d'un amen laïque. Hein, voilà, donc c'est une célébration, hein, qui n'est pas religieuse, qui est laïque, mais qui est en mémoire des hommes. Et tout au long de l'entre-deux-guerres, eh bien, on aura ces mouvements d'anciens combattants, ces associations d'anciens combattants, les mutilés, les anciens combattants de la marine, etc. Enfin, il y en a beaucoup, d'ailleurs, quelquefois s'opposent, hein, ce n'est pas simple, qui vont jouer un rôle politique très important, un poids politique très important, et qui vont se réunir de manière très régulière autour du monument. On a, par exemple, lors des 20 ans de l'armistice, donc en 1938, une très grande cérémonie dans les villes, en particulier donc à Digne, hein, comme ailleurs, où on a vraiment un cérémonial très important autour du monument, avec défilés, alors toutes les autorités constituées, les écoles, les lycéens, les écoles primaires, les instituteurs, enfin oui, tous les corps constitués de la ville, et les décorations, parce que c'est aussi, hein, la cérémonie du 11 novembre est aussi l'occasion de décorer des poilus. Hein, et donc, ce fameux 11 novembre 1938, on va conférer la médaille militaire, par exemple, hein, qui est la médaille militaire, c'est l'équivalent de la Légion d'honneur, hein, pour les sous-officiers et les hommes du rang. Vous voyez, donc une décoration très importante qui va être délivrée ce jour-là. Voilà. Pour terminer, peut-être, parce que je crois qu'on est au bout, voilà. Hein, donc j'espère qu'on aura insisté. Il y a donc, alors je ne vais pas parler du pacifisme, hein, qui se développe. J'aurais pu évoquer évidemment la figure la plus importante du département, c'est Jean Giono, hein, qui a fait publier en 1931 Le Grand Troupeau, hein, où il raconte. C'est compliqué mais ça serait un sujet en soi, parce qu'en fait, ce n'est pas le seul à avoir écrit. Hein, il y a eu beaucoup d'ouvrages qui ont été publiés durant cette période, en particulier fin des années 20 et 1930-1931. Après, d'ailleurs, la publication, le côté allemand, hein, de « À l'Ouest, rien de nouveau », hein, qui est un ouvrage considérable, hein, qui est toujours édité, donc évoquer donc, la question du pacifisme. Et enfin, terminer, ça sera mon dernier mot, sur les célébrations du 11 novembre pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, où comme une forme de résistance, hein, vous avez des jeunes gens en particulier, hein, qui vont manifester sur l'Arc de Triomphe en 1940, mais aussi en 1941, 42, 43, devant les monuments aux morts, hein, contre les autorités évidemment du régime de Vichy, hein, qui vont rappeler que la guerre de 14-18 avait délivré des leçons. Et je termine avec un discours qui avait été prononcé lors d'un 11 novembre, durant donc la Deuxième Guerre mondiale. « Nous avons horreur de la guerre, mais si par malheur notre pays était encore une fois injustement attaqué, si notre liberté se trouvait menacée, donc ça on est avant la guerre en réalité, hein, si le droit était violé, nous saurions, nos enfants sauraient, comme vous, mourir pour la France. »
Merci Jean-Christophe Labadie pour cette belle émission très intéressante. On apprend beaucoup de choses. Merci Marie. On se retrouve au mois de décembre.
Oui, hein. En fait, on prévoit... Donc normalement, le programme, je vais laisser la parole à Madame Brunel.
Oui, pour notre prochaine émission, nous vous proposerons une découverte en avant-première de notre prochaine exposition, Les archives entrent en scène, donc, dont le vernissage aura lieu le jeudi 11 décembre à 17h30 aux archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence. et que vous pourrez découvrir jusque vers la fin de l'année 2027. Voilà, donc les archives entrent en scène, exposition qui vous sera présentée donc, lors de la prochaine émission.
Merci,
au revoir. Merci à vous et bonne journée à tous.
Au revoir.